Merci d'écouter RFI. 9h, rapport au prince. Il est 13h en temps universel. 9h aussi à Washington et nous appellerons notre correspondant tout à l'heure pour faire le point sur la campagne électorale aux États-Unis, débat sur la violence politique et reprise des déplacements et meetings dans une course toujours très serrée entre Donald Trump et Kamala Harris. Nous appellerons également notre confrère haïtien Godson Pierre, directeur de l'agence Alter Press. Nous parlerons avec lui des suites de l'explosion d'un camion-citerne qui s'est produite samedi dernier à Miragoan. Et puis l'actualité des Outre-mer. Tessa Groman, le mouvement contre la vie chère bascule dans la violence en Martinique.
Des émeutes ont à nouveau éclaté à Fort-de-France. Un jeune homme aurait été blessé par balle cette nuit. Les forces de l'ordre interviennent actuellement dans le quartier.
À tout à l'heure. Et on commence d'abord par faire le point sur l'actualité internationale avec votre journal, Gilles Moreau. Bonjour.
Bonjour Anne Cantner.
Ça y est, on connaît la nouvelle Commission européenne.
Oui, après des semaines de difficiles tractations, la présidente Ursula von der Leyen a dévoilé ce matin sa nouvelle équipe de commissaires. Une équipe de 11 femmes pour 16 hommes. Ce n'est pas la parité qui avait été promise. Parmi les membres du nouvel exécutif, l'Italien Raffaele Fitto, issu du gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni. Le Lituanien Andrius Kubilius a quant à lui été nommé commissaire à la Défense et à l'Espace. C'est un nouveau poste. Côté français, pour remplacer Thierry Breton, le chef démissionnaire de la diplomatie, Stéphane Séjourné, obtient une vice-présidence exécutive ainsi qu'un portefeuille combinant marché intérieur et industrie. Un autre poste était très scruté, celui qu'a décroché l'Espagnole Teresa Ribera. Pauline Glaise, elle obtient un poste de vice-présidente et un large portefeuille dédié à la transition écologique.
Oui, Teresa Ribera sera vice-présidente exécutive d'une transition propre, juste et compétitive. Elle sera d'ailleurs également en charge de la concurrence, un rôle majeur de l'exécutif européen. L'actuelle ministre espagnole de la transition écologique devra donc mettre en œuvre le Green Deal, connecter pacte vert et compétitivité. C'est précisément le but annoncé par son entourage avant sa nomination. Forte de plusieurs expériences gouvernementales, Teresa Ribera s'est forgée une réputation de négociatrice et même de négociatrice rentre dedans parfois. La socialiste a entre autres piloté récemment la réforme du marché européen de l'électricité. Teresa Ribera va maintenant devoir être adoubée par les parlementaires européens et convaincre le Parti populaire européen. Le parti de droite n'a pas caché sa réticence à sa nomination ces dernières semaines. Parmi leurs divergences de vues, la loi de restauration de la nature, soutenue par Teresa Ribera et décriée par le PPE. Si le portefeuille attribué à Teresa Ribera était aussi scruté, c'est également en raison de ses positions ouvertement anti-nucléaires, pas du goût de certains États. Au contraire, pour ces raisons, entre autres, le profil de Teresa Ribera plaît plutôt aux ONG. En Espagne, l'une d'elles l'accrédite aussi pour avoir fait sortir l'Espagne du charbon.
Merci Pauline Glaise. C'est Pauline Glaise du service environnement de la rédaction. L'armée malienne affirme qu'elle contrôle la situation à Bamako après avoir déjoué une attaque terroriste. Attaque revendiquée par le JNIM. C'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, un groupe affilié à Al-Qaïda. L'armée malienne a repoussé tôt ce matin une tentative d'infiltration dans une école de gendarmerie. D'habitude épargnée par les attaques djihadistes, Bamako s'est réveillée au bruit des tirs et des déflagrations. Deux gendarmes ont été blessés.
Le Venezuela, accusé par les Nations Unies de violer les droits de l'homme.
Répression systématique, crimes contre l'humanité commis par l'appareil d'État, c'est ce qu'on lit dans un nouveau rapport des Nations Unies qui épingle la situation dans ce pays. Situation qui ne cesse de se dégrader depuis la réélection contestée du président Maduro en juillet dernier à Rimnipold.
Au moins 27 morts et plus de 2000 personnes arrêtées en quelques semaines seulement. Pour les experts de l'ONU, il n'y a pas de doute, les violences ont atteint un niveau sans précédent, alerte Marta Valiñas, qui a dirigé la mission d'enquête sur le Venezuela.
Après l'élection présidentielle, la répression, notamment à travers des arrestations arbitraires, est devenue très massive. Nous assistons à une intensification de la répression d'État, notamment contre des personnes qui réclament de la transparence dans les résultats électoraux ou ont manifesté contre les résultats annoncés dénoncée par les autorités électorales.
Ces autorités ont déclaré le président sortant Nicolas Maduro victorieux de l'élection sans jamais fournir de preuves, en particulier les procès-verbaux. Pour l'experte Marta Valignas, la répression est orchestrée par l'État aux ordres de Nicolas Maduro.
L'objectif est de réduire au silence toute personne qui pense différemment du gouvernement.
Une conséquence des violences, c'est le climat de peur qui s'est installé dans le pays, souligne Marta Valignas, à tel point qu'il était difficile pour la mission de l'ONU d'obtenir des témoignages de victimes. Le gouvernement, lui, a refusé de collaborer avec le groupe d'experts.
Un autre pays est épinglé par l'ONU, c'est la Birmanie. L'ONU fait état de tortures atroces et d'une aggravation générale de la situation des droits de l'homme en Birmanie.
La forêt amazonienne est toujours la proie des flammes.
Oui, le gouvernement brésilien a dépêché des renforts pour lutter contre les incendies qui se propagent sous l'effet de la sécheresse. Mais il a bien du mal à contrôler la situation et il met en cause l'action de bandes criminelles. Correspondance à Sao Paulo de Martin Bernard.
Cela fait bientôt 6 mois que le Brésilien n'a pas reçu une goutte de pluie. Le parc national de la capitale s'est embrasé et l'incendie dégage des fumées qui polluent une grande partie de la capitale. Ce même scénario s'est répété à Sao Paulo au cours des derniers jours. Là, ce sont les plantations de canne à sucre qui ont pris feu la semaine dernière. Les incendies ont encore détruit une bonne partie du Pantanal, un véritable sanctuaire écologique. Les flammes ont ravagé la savane du Cerrado et bien sûr l'Amazonie, où la sécheresse a provoqué la chute du niveau des eaux. Résultat, les fleuves ne sont plus navigables et les populations locales se retrouvent isolées. Les experts s'alarment, les changements climatiques se manifestent beaucoup plus vite que prévu, disent-ils. Le gouvernement met en cause des incendies criminels, des écologistes accusent, eux, les grands propriétaires terriens et les partisans de l'ancien président Bolsonaro de jeter de l'huile sur le feu pour accélérer la déforestation. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI.
Les autorités de la Géorgie confirment leur virage conservateur et anti-occidental. Le Parlement géorgien a voté ce matin une loi sur les valeurs familiales et contre la propagande des relations homosexuelles, texte dénoncé par les organisations de défense des droits de l'homme. En France, une première étape franchie au Parlement dans la procédure de destitution d'Emmanuel Macron, procédure lancée par la France insoumise. Elle a été jugée recevable ce matin par le bureau de l'Assemblée. La gauche a fait le plein de ses voix pour donner ce feu vert. Sa démarche, toutefois, a très peu de chances d'aboutir, la gauche étant minoritaire en commission comme dans l'hémicycle.
Un rappeur américain célèbre accusé d'agression sexuelle.
Sean Combs, 54 ans, a été arrêté hier soir à New York. Artiste aux multiples surnoms, notamment P. Diddy, et aux multiples casquettes dans le monde de la musique et des affaires, il est visé par 9 plaintes, notamment pour agression sexuelle. Il sera fixé ce mardi sur les chefs d'inculpation retenus contre lui, Carmen Lunsman.
Figure du hip-hop venue de la côte est des États-Unis, Sean Combs est connu depuis les années 90. D'abord pour ses 3 Grammy Awards, puis pour ses affaires judiciaires et ses excès de violence. Artiste et homme d'affaires, il a fondé le label Bad Boy Records, s'est lancé dans l'industrie de l'alcool, a amassé une fortune et cultive depuis une image bling-bling, exhibant diamants et costumes sur mesure. Mais derrière la façade, les plaintes s'accumulent. 9 au total, dont une poursuite au civil engagée en novembre dernier par la chanteuse de R&B Cassie. Son ex-compagne dit avoir subi des violences sexuelles et psychologiques pendant plus d'une décennie, vidéo en appui où l'on voit le rappeur lui asséner des coups de pied. Un mois plus tard, il est accusé d'un viol en réunion sur une mineure de 17 ans, une affaire qui remonte à 2016. Jusque-là, aucune condamnation majeure n'a jamais été prononcée, les affaires ont toujours été réglées à l'amiable. En mars, une perquisition d'envergure menée par des dizaines d'agents fédéraux a eu lieu dans ses villas à Los Angeles et à Miami.
Carmen Lunsman du service culture. Voilà, bonne journée sur RFI. Tout de suite en compagnie d'Anne Cantner.
Pour la dernière partie d'RFI Midi, merci Gilles Moreau. On va prendre la direction des États-Unis.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Comme chaque mardi jusqu'à la présidentielle aux États-Unis, nous sommes en ligne avec notre correspondant à Washington. Bonjour Guillaume Nodin.
Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous faites vivre cette campagne électorale dont le moment fort cette semaine était évidemment cette nouvelle tentative d'assassinat contre Donald Trump dimanche.
Oui, c'est comme cela que le FBI, la police fédérale américaine, traite l'affaire. On rappelle les faits. Dimanche, alors qu'il jouait au golf, les agents chargés de la protection de Donald Trump ont repéré un homme armé et ont ouvert le feu sur lui. L'homme a fui avant d'être arrêté quelques minutes plus tard. L'enquête qui est encore en cours devra déterminer les motivations de l'individu et comment il a pu s'approcher à moins de 500 mètres de l'ancien président.
C'est la deuxième fois en deux mois après les tirs contre Donald Trump en Pennsylvanie. Cette campagne, Guillaume, elle se déroule dans un climat de violence inédit et c'est un fait politique majeur.
Oui, il est certain que tout ça ne se passe pas dans la sérénité et le respect. Depuis l'attentat en Pennsylvanie, Donald Trump et Kamala Harris prononcent leur discours en extérieur derrière des vitres blindées. Les conséquences sur l'opinion sont encore difficiles à mesurer, mais hier, Donald Trump n'a pas hésité à accuser sa concurrente et même le camp adverse en général. Pour lui, la rhétorique violente de Kamala Harris et même de Joe Biden, qu'il accuse régulièrement d'être une menace pour la démocratie, a conduit à ce qu'il se fasse tirer dessus et cela ne va pas s'arrêter. Prédit-il.
En réponse, les intéressés, eux, condamnent la violence politique.
Oui, ils l'ont fait par communiqué dès qu'ils ont eu connaissance de l'incident et Joe Biden l'a redit après la sortie de Donald Trump contre lui lors d'un déplacement dans sa Pennsylvanie natale. Écoutez-le.
Il n'y a pas, et je le dis du fond du cœur, ceux qui me connaissent le savent bien, il n'y a pas de place pour la violence politique en Amérique. Aucune, zéro, jamais. J'ai toujours condamné la violence politique et je la condamnerai toujours. En Amérique, nous réglons nos différends pacifiquement, dans les urnes, pas au bout du fusil. L'Amérique a souffert bien trop souvent de la tragédie des balles des assassins. Cela ne règle rien et cela ne fait que déchirer le pays. Nous devons tout faire pour l'empêcher et ne jamais lui donner d'oxygène.
Et aujourd'hui, Donald Trump reprend ses déplacements dans le Michigan, à Flint, et Kamala Harris retourne en Pennsylvanie pour discuter devant une association de journalistes noirs.
Et c'est un État très important, avec 19 grands électeurs.
Oui, et la course y est très serrée, c'est ce que disent tous les sondages. C'est un argument sur lequel s'appuie Kamala Harris. Elle le fait dans des vidéos d'appel aux dons à chaque discours, comme elle l'a fait vendredi quand je suis allé la voir, déjà en Pennsylvanie, c'était à Wilkes-Barre. Écoutez-la.
Pour nous, ce sera une course très serrée jusqu'au bout. Nous ne sommes pas favoris. Nous ne sommes pas favoris, il faut s'en souvenir et le savoir. Nous savons comment ils jouent et ce qu'ils sont capables de faire. Nous ne sommes pas favoris et nous avons beaucoup de travail très dur qui nous attend.
Un discours volontairement modeste malgré une entrée en campagne réussie.
Et cette modestie, Guillaume, elle est diversement appréciée au sein même du Parti démocrate.
Oui, écoutez, par exemple, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, c'est l'une des étoiles du Parti démocrate. Pour lui, il faudrait peut-être envisager de bomber un petit peu plus le torse.
À mon humble avis, c'est quelque chose que je n'aime pas trop entendre. Les succès, il faut les mettre en valeur. Je ne sais pas si les démocrates sont comme ça, mais il y a une timidité. Par exemple, la bourse bat des records et on entend que tout le monde n'est pas concerné par la bourse. Il y a une timidité et la fierté. Et si on revendiquait les réussites, ce que Kamala Harris a fait depuis deux mois est sans précédent dans l'histoire américaine.
Et pour l'instant, les sondages sont serrés. La campagne Harris met même les plus mauvais en avant pour maintenir tout le monde sous pression. Et s'ils s'améliorent, ces sondages, notamment ceux qui mesureront l'impact du débat de la semaine dernière et de l'incident de West Palm Beach ce week-end, alors peut-être que cela changera. Mais pour l'instant, ce n'est manifestement pas l'option qui est retenue par la campagne de Kamala Harris.
Guillaume Nodin, en direct de Washington. Cette stratégie, cette modestie, cela n'a pas empêché des scientifiques de prendre publiquement position pour la candidate démocrate. Vous l'avez lu dans la presse, Abla Jounaidi. Il s'agit des rédacteurs du mensuel de vulgarisation scientifique Scientific American. Et c'est la deuxième fois seulement en près de 180 ans qu'ils soutiennent un candidat.
Kamala Harris offre au pays de meilleures perspectives en s'appuyant sur la science, des preuves solides et la volonté d'apprendre de l'expérience. Donald Trump est une menace et a un bilan dangereux. Voilà ce qu'écrivent les rédacteurs dans leur dernier numéro. L'urgence de la crise climatique, rappelée en permanence par les tempêtes, les incendies et les sécheresses qui ravagent le pays. La candidate démocrate serait plus susceptible d'y répondre, selon ses scientifiques. Vous l'avez dit, Anne, c'est la deuxième fois que le magazine se prononce pour un candidat en 179 ans d'existence. Et il est cohérent. La dernière fois, c'était il y a 4 ans, déjà contre Donald Trump.
Abla Jounaidi, vous restez avec nous, on va vous retrouver dans quelques minutes. Un autre moment marquant de la campagne, nous en avons beaucoup parlé ici, ce sont les fake news propagées par Donald Trump et par son colistier sur les migrants haïtiens de Springfield dans l'Ohio. Sans aucune preuve et malgré les démentis des autorités locales, ils assurent et ils répètent que ces Haïtiens volent les chats, les chiens des Américains pour les manger. C'est faux. Et Joe Biden lui-même s'est exprimé sur la question hier. Écoutez.
Right now, lies and hate are being spread about Haitian Americans.
En ce moment, des mensonges sont proférés concernant les Haïtiens américains d'Ohio. C'est mal, c'est tout simplement mal. Et il faut que ça cesse. Les États-Unis sont suffisamment grands pour que tout le monde réussisse. Je le pense sincèrement, tout le monde.
Voilà les propos du président américain hier. Et dans ce contexte, de très nombreux internautes se font un malin plaisir à noter que le procureur en charge de l'enquête sur la tentative d'assassinat contre Donald Trump est un immigré haïtien, né à Port-au-Prince et arrivé aux États-Unis à l'âge de 16 ans.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
À propos d'Haïti, le secrétaire général de l'ONU a lancé un appel hier. Il a exprimé sa colère. Antonio Guterres juge inacceptable le manque de contributions internationales pour la mission d'appui à la sécurité en Haïti.
Quand il y a une guerre, on trouve toujours de l'argent. Quand il y a une crise financière et que des banques doivent être sauvées, on trouve toujours de l'argent. Quand un peuple souffre dans une situation si désespérée et qu'on n'a besoin que d'une somme relativement faible d'argent pour mettre en place une petite force en Haïti, il est totalement inacceptable que cet argent ne soit pas disponible.
L'appel du secrétaire général de l'ONU à l'approche de l'Assemblée générale de l'organisation et de discussions sur le renouvellement de cette fameuse mission qui est aujourd'hui loin d'être entièrement opérationnelle. Une chose est sûre, Abla Jounaidi, et c'est le journal Le Nouvelliste qui l'écrit, Haïti est au cœur de l'actualité internationale.
Oui, entre la visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken dans le pays, l'Assemblée générale de l'ONU qui approche, des perspectives nous font penser que le meilleur est pour les mois à venir. Mais, déplore Franz Duval dans son éditorial, le refus de placer les principes au-dessus de tout laisse craindre un nouveau cycle de temps perdu qui pour faire entrer de l'air frais dans les couloirs de la gouvernance et de l'espoir pour les Haïtiens, se demande notre confrère.
On va continuer à parler d'Haïti. Nous sommes en ligne, comme chaque mardi, avec notre confrère Godson Pierre. Bonjour.
Bonjour.
Directeur de l'agence Alter Press, vous revenez sur votre site sur les suites de l'explosion d'un camion-citerne samedi dernier à Miragoan. Cette explosion avait fait 27 morts, plus de 40 blessés. Et vous consacrez un article aux conséquences de cette explosion. Il y a un risque important pour l'environnement, Godson.
Tout n'est pas fini. En effet, la protection civile alerte sur la contamination des sols et des eaux souterraines par les produits chimiques ou le carburant, la pollution de l'air due aux émanations toxiques ainsi qu'un risque accru d'incendie. Grave menace également sur la santé publique et les écosystèmes locaux. La protection civile demande aux autorités d'assurer la surveillance du camion-citerne qui a explosé pour prévenir tout pillage car il pourrait y avoir des risques résidus de carburant dans un autre compartiment.
Alter Press revient aussi sur le conseil électoral provisoire, promesse des autorités de transition, mais dont la mise en œuvre tarde.
Oui, impasse en effet. Jusqu'à présent, dans la mise en place de l'institution électorale, il y a une semaine que la composition du CEP devait être annoncée, une promesse que le président du CPT, Edgar Leblanc-Fils, avait fait le 5 septembre lors de la visite en Haïti du secrétaire d'État américain Antony Blinken. Diverses contestations persistent au sein de différents secteurs en rapport au choix des 9 membres du CEP. Divergence probable également au sein du CPT. Les dernières élections remontent à 8 ans en Haïti. Vous le savez, le prochain rendez-vous devrait être en novembre 2025 pour un transfert de pouvoir en février 2026.
Et puis à lire aussi sur votre site, Godson, l'inquiétude des agriculteurs de l'Ouest qui produisent à perte.
Ah oui, perte de différentes récoltes comme les choux, les carottes, les pois, les oignons à Fonds-Vérette précisément dans l'Ouest. C'est ce que nous rapporte un jeune agriculteur. Les difficultés d'accès aux principales routes occupées par les gangs empêchent l'acheminement de produits sur les marchés. Cette situation se produit dans les autres communautés à travers le pays, notamment Tibonite, ce qui contribue à creuser l'insécurité alimentaire qui affecte désormais plus de la moitié de la population haïtienne.
Merci Godson Pierre. On peut vous lire sur le site alterpress.org.
RFI, la radio del mundo.
On va continuer à feuilleter la presse du continent. Nous sommes en Bolivie. La mobilisation des partisans de l'ancien président Evo Morales se poursuit à Blas avec le blocage de l'accès au lac Titicaca hier.
Oui, on signale 5 points de blocage sur la route vers Copacabana sur les rives du lac. 3 arrestations et des pertes de 28 000 bolivars en péage, titre en une le journal Los Tiempos. Le président Luis Arce impute ces blocages au secteur éviste pro-Evo Morales de son parti, le MAS. Le quotidien confirme que les revendications sont économiques et sociales, mais qu'elle comporte aussi le rejet de la disqualification d'Evo Morales aux élections de 2025. À la tête du mouvement, il y a notamment David Mamani. Une vidéo de son groupe a été diffusée dimanche, montrant ses membres tirant des coups de feu en l'air. Une enquête a été ouverte pour délit de souveraineté de l'État et de terrorisme, indique le journal El Mundo. Une pression policière et judiciaire à laquelle certains leaders, dont David Mamani, se disent insensibles, mais qui crée des remous au sein du mouvement paysan. Le leader, Javier Alejo, proche du gouvernement, a ainsi rejeté le blocus routier. Pour lui, la mobilisation n'a pas eu l'ampleur espérée et elle ne répond qu'à des intérêts politiques liés à l'ancien président, peut-on lire dans le journal Ball Press. Véritable test pour la mobilisation, une marche doit débuter aujourd'hui à Caracoyo, au sud de La Paz, pour arriver au siège du gouvernement.
Abla Junaidi, nous vous parlions hier dans RFI Midi des menaces qui pèsent sur les défenseurs de l'environnement, en particulier en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Le pays le plus dangereux pour ces militants est le Honduras, en témoigne un nouvel assassinat, c'était samedi dernier. Juan Lopez a été criblé de balles alors qu'il sortait d'une église. Il disait vivre dans la peur depuis plusieurs années, depuis qu'il avait pris la tête d'un collectif de lutte contre une mine de fer à ciel ouvert, ouverte dans un parc protégé. Il avait obtenu d'ailleurs, il y a quelques mois, la fin des concessions minières dans cette zone. Écoutez à ce propos Rita Romero, l'avocate du collectif.
Juan López es un ambientalista, un defensor de derechos humanos, un hombre humilde.
Juan López était un défenseur de l'environnement, un défenseur des droits de l'homme et un homme modeste. Son combat était de sauver un parc national protégé où se trouve la source de plusieurs fleuves. Un jour, les communautés locales se sont rendues compte que l'un des fleuves devenait marron. Les gens ne pouvaient plus se baigner car l'eau provoquait des démangeaisons. Il était même impossible de laver le linge dans l'eau de ce fleuve à cause des rejets de 2 mines de fer. En octobre 2023, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a ordonné des mesures de protection pour Juan López et 36 autres militants menacés. Mais l'État hondurien n'a rien fait et voilà le résultat. Juan a été assassiné.
Et là, nous avons le résultat de la mort de Juan.
L'avocate du collectif que présidait Juan López, assassiné samedi dernier. Pour mémoire, l'ONG Global Witness estime que près de 200 défenseurs de l'environnement ont été assassinés dans le monde l'année dernière, dont l'immense majorité, 85%, en Amérique latine. 15h22 ici à Paris. Dernière partie de votre revue de presse, Abla Junaidi. On va parler du rappeur et mania américain du hip-hop, Sean Diddy Combs, menotte au poignet. L'artiste est un habitué des affaires judiciaires pour abus sexuels et violences domestiques. Eh bien, il a été arrêté hier soir. En revanche, les charges retenues contre lui n'ont pas encore été dévoilées.
Oui, le rappeur doit être traduit devant un tribunal fédéral de Manhattan où il connaîtra les charges retenues contre lui ce mardi matin, précise le New York Post. Le journal rappelle, comme l'ensemble de la presse, le passif judiciaire lourd de Sean Diddy, accusé de cas répétés d'abus sexuels et physiques au plus fort de sa gloire en tant que producteur de grands noms du hip-hop, ou encore d'une série de violences domestiques et sexuelles et même de trafic contre son ancienne petite amie, la chanteuse de R&B, Casey Ventura. Cela avait donné lieu à un procès explosif qui a fait la une des journaux du monde entier. Affaire conclue finalement par un accord privé avec elle, sans diminuer pour autant les retombées judiciaires, selon le magazine Rolling Stones. En décembre dernier, c'était un 4e procès pour agression sexuelle sur une jeune fille de 17 ans. Et enfin, ce mois-ci, Diddy a été poursuivi en justice par Dawn Richard, une ancienne participante de son émission Making the Band en 2004, pour attouchement, énumère le New York Post. Si l'avocat du célèbre producteur plaide que son client n'est, je cite, pas parfait, il critique aussi le recours abusif, selon lui, à une loi récente de New York, une loi qui permet aux femmes de se manifester bien des années après les crimes et délits présumés.
Abla Junaidi, votre revue de presse à retrouver sur internet rfi.fr.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Tessa Groman, et à la une, la Martinique qui s'embrase.
Le mouvement contre la vie chère bascule dans la violence dans l'île des Antilles. Cette nuit, des émeutes ont à nouveau éclaté dans un quartier de Fort-de-France. Un jeune homme aurait été blessé par balle et conduit aux urgences. Franck Zozor de Martinique, la première, s'est rendu sur place. Son témoignage, il y a à peine 2 heures.
Il y a des gendarmes, il y a des policiers qui occupent le terrain.
pour tenter de déblayer. Donc ça continue encore ce matin du côté de Sainte-Thérèse. Ça continue, il y a beaucoup de badauds, mais la circulation est interrompue à Sainte-Thérèse. Il y a des feux, il y a des véhicules brûlés, il y a des lampadaires couchés carrément. Visiblement, ici, ça a duré presque toute la nuit.
Et des barrages auraient été également érigés sur plusieurs points sur l'île au petit matin. Côté politique, le président de la collectivité Serge Letchimy réclame un blocage des prix et la suppression de la TVA sur une cinquantaine de produits. Un forum de discussion sur la vie chère est prévu en fin de journée à la collectivité. 5 pharmaciens comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. On leur reproche d'avoir accepté des cadeaux des laboratoires Urgo. Une affaire révélée en 2021 par une enquête de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En Guadeloupe, l'enquête a mobilisé 6 enquêteurs. Une cinquantaine de pharmacies ont été visées. Leurs dirigeants sont soupçonnés d'avoir reçu des cadeaux dont la valeur totale dépasse les 300 000 euros. En Guyane, un rapport sur la pêche illégale vient d'être rendu public, co-réalisé par des associations, des organismes de recherche et le comité des pêches de la Guyane. Il évalue l'ampleur du préjudice subi par la région depuis 2019 avec des chiffres alarmants, Laurent Marot.
Des chercheurs ont analysé 5 ans de données issues de la lutte contre la pêche illégale, surtout des survols de l'armée et des centaines de procès-verbaux d'arraisonnement. Résultat, le nombre de navires clandestins a doublé. En 2012, une étude estimait leur présence à plus de 5500 jours de mer par an. On s'approche aujourd'hui des 11 000. En moyenne, la pêche clandestine prélève 2 fois plus de poissons que la pêche locale, une menace pour la filière, notamment pour l'acoupa rouge. Un phénomène sous-estimé, prévient le comité des pêches, car les illégaux opérant la nuit ne seraient pas comptés. Également acteur de ce rapport, le WWF rappelle les effets de la pêche clandestine sur la faune marine. En 20 ans, 97% des tortulutes qui venaient pondre dans l'Ouest ont disparu de cette région où des dizaines de bateaux illégaux jettent leurs filets.
Laurent Marot, Guyane la première. La Guyane où la chasse aux iguanes avec une carabine ou un lance-pierre est désormais proscrite dans le centre de Roura. Une décision du maire de la commune. Cette mesure vise à protéger la faune mais aussi garantir la sécurité des habitants. Voilà pour les nouvelles des Outre-mer. Bonne journée à tous.
Merci Tessa Gromane. De la musique, avant de se quitter, voici le groupe de jazz canadien Bad Bad Not Good et son morceau Times Move Slow. Bad Bad Not Good sera en concert ce soir à New York. Just couldn't help myself falling in love with you. What could I say? Oh, if I had another chance to make you stay. 'Cause when you ran away, I knew just what you were thinking that day. You just didn't love me like I do, like I love you. The sad thing is we're better off this way. Time moves slow, you can't hear a thing. Time moves slow when you're lost in the dream. And the time moves slow when you wait by the phone. And the time moves slow when you're lost. To run away is easy. It's the leaving that's hard. Running away is easy. Running away is easy. It's the leaving that's hard. Loving you was easy. It was you leaving that's hard. C'est C'est donc en douceur avec Bad Bad Not Good que se termine RFI Midi, réalisé aujourd'hui par Vincent Biteau. Rendez-vous demain 11h, temps universel, pour une nouvelle émission. Mais vous ne bougez pas, dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou et son invitée, la cantatrice Marie-Nicole Lemieux. Très bonne journée à tous. Time moves slow.
RFI Midi. Mira, la foire d'art contemporain latino-américain, se tient du 18 au 22 septembre à Paris. Mira, une plateforme de découverte et une vitrine de talent pour explorer la diversité, la richesse et l'innovation artistique d'Amérique du Sud. Du 18 au 22 septembre. Plus d'informations sur mira-artfair.com. En partenariat avec RFI.